Alors un grand merci de m'avoir invité à vous parler de ce qui fait le cœur de notre vie. Antoine Hubert disait, l'Eucharistie c'est le cœur du sanctuaire, mais moi de mon côté je dis oui, c'est le cœur de notre vie, de frères, de sœurs, de laïcs. L'Eucharistie dans le charisme propre de nos fraternités de Jérusalem, au sein de l'Église d'aujourd'hui, c'est ce dont je veux vous parler ce soir. Et je vais partir d'une citation de Sœur Catherine, vous l'avez connue Sœur Catherine. Elle avait donné une récollection aux veilleurs de Vézelay, Paris-Vézelay, en 2003, je crois, avril 2003. Et elle avait dit ceci. « À Jérusalem, nous avons une vocation d'adorateur. » Un bien gros mot de dire ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce à dire que cette vocation était là dès la naissance de notre communauté, en 1975 pour les frères, 76 pour les sœurs? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce qu'elle s'est révélée peu à peu, un peu comme une petite graine qu'on met en terre et qui germe, qui pousse et qui finit par donner un grand arbre? Et puis, autre question, comment sommes-nous adorateurs si nous le sommes? Est-ce qu'il y a une couleur propre du charisme d'adoration à Jérusalem? Donc une question sur l'origine et l'autre sur la forme. C'est ce que nous allons essayer de voir à travers l'histoire de notre communauté et son tracé spirituel, le livre de vie. Je pense que vous avez tous eu un jour entre les mains le livre de vie. Voilà, c'est notre tracé spirituel. Alors, premier temps, on va remonter un petit peu dans l'histoire. Le renouveau post-conciliaire et la naissance des communautés nouvelles. Il faut en effet resituer notre aventure communautaire dans ce renouveau eucharistique qui est né dans et avec la mouvance du Concile Vatican II. Le magistère de l'Église, depuis la Constitution sur la Sainte Liturgie de Vatican II, a mis l'accent sur la participation consciente et active du peuple de Dieu aux célébrations eucharistiques, comme source et sommet de la vie de l'Église. Et puis, tous les papes, depuis le Concile, notamment les derniers papes, n'ont cessé de remettre en valeur la place centrale de l'Eucharistie et de l'adoration dans la vie de tout le peuple de Dieu, les prêtres, les consacrés, les laïcs. Et à partir de là, il s'est produit un vaste mouvement de renouveau dans toute l'Église. Comme le dit le Père Cantalamessa, il y a eu la redécouverte que le corps mystique du Christ, l'Église, ne pouvait pas exister sans son corps réel, l'Eucharistie. Et que, à côté d'un mouvement centrifuge vers les pauvres, vers les périphéries, dirait notre pape François, vers l'engagement social, vers le tiers-monde, eh bien, les communautés chrétiennes avaient besoin d'un rééquilibrage par un mouvement centripète vers le centre qui ramène au cœur là où est l'Eucharistie. Ce renouveau, cette réévangélisation du monde à partir de l'essentiel, c'est une citation du Père Cantalamessa toujours, s'est manifesté notamment, pas seulement, mais notamment, par la floraison de communautés nouvelles, suscitées par l'Esprit Saint, et qui se sont tout de suite développées autour de la dévotion eucharistique. Et le pape Paul VI, à la Pentecôte 1975, les a saluées comme les expressions providentielles d'un nouveau printemps de l'Église. Les expressions providentielles d'un nouveau printemps de l'Église. Frédéric Lenoir, dans son livre bien connu sur les communautés nouvelles, relève entre toutes ces communautés ce double point commun. Un renouveau du culte eucharistique sous toutes ses formes, donc y compris l'adoration, et le partage quotidien de l'Eucharistie comme cœur de la journée. Et ce mouvement, qui est parti donc de communautés un peu isolées, de communautés nouvelles, a ensuite fait peu à peu tache d'huile dans les paroisses, les diocèses, qui de plus en plus proposent des temps, des veillées d'adoration pour tous les fidèles. Parmi ces communautés nouvelles, ces mouvements nés dans l'esprit du renouveau, il y a bien sûr, vous les connaissez, les foyers de charité, apparus dans les années 1950, un peu en précurseur avec la belle figure de Marthe Robin, qui, vous le savez, a vécu plus de 50 ans en se nourrissant uniquement de l'Eucharistie, une vraie mystique. Et puis, il y a eu les petits frères, les petites sœurs de Jésus, les petits frères, les petites sœurs de l'Évangile, dans la continuité de la spiritualité de Charles de Foucault. Chez vous, je crois qu'il y a les petits frères de la Croix, si je ne me trompe pas. Voilà, la même mouvance foucaultienne. Il y a aussi les missionnaires de la charité de Mère Teresa, pour qui l'adoration et l'alimentation quotidienne de la charité a donné aux pauvres. Un très beau mouvement qui part du cœur vers les périphéries. Mère Teresa disait aux sœurs qui n'arrivaient plus à aimer les pauvres, « Allez passer une heure devant le Saint-Sacrement. Et quand vous sentirez à nouveau la charité dans votre cœur, retournez servir les pauvres. » Et puis des communautés charismatiques comme le Bain de Vie, l'Emmanuel, les Béatitudes, le Puy de Jacob en Alsace, qui toutes ont mis l'accent sur l'Eucharistie, cœur, poumon de la communauté. Chez vous au Québec, pour ceux que je connais, je crois qu'il y a une dominicaine missionnaire adoratrice. Je me suis beaucoup inspirée de Mère Julienne dans plusieurs enseignements que j'ai donnés. Et puis on s'est inspiré d'elle pour le lavement des pieds entre sœurs. Vraiment une très, très belle figure. Je connais aussi Marie Jeunesse, la Société du Christ Seigneur. Voilà, parmi les communautés qui sont chez vous, que je connais, et qui ont mis cette adoration vraiment au cœur de leur vie de communauté, au cœur de leur spiritualité. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, mais je ne cite que ceux que je connais. Alors, dans tout ce grand mouvement, ce panorama que je viens de vous décrire, comment peut-on situer nos fraternités? Nous sommes nés dans le cadre de ce renouveau, et donc marqués nous aussi, dès le début, par ce caractère central de l'Eucharistie. Je rappelle un petit peu notre naissance, pour ceux qui nous connaissent un peu de loin, mais je pense que la plupart maintenant commencent à nous connaître. Vous savez que notre fondateur, frère Pierre-Marie, a passé 2 ans dans son ermitage de la Sécrème, seul avec la Bible et la présence réelle, à l'imitation du père de Foucault. Comme lui, il veillait de longues heures devant le tabernacle. Seul avec la Bible et la présence réelle, disait-il, tout est donné, rien ne lui manquait. Il en témoigne dans plusieurs numéros de Sources Vives, notre revue, celui sur les 25 ans de la communauté. Il disait « J'adorais, je lisais la Bible, rien ne me manquait. » Et puis dans un numéro qui tout entier consacré au désert, « Vivre le désert », le numéro 138 du Sources Vives, avec un interview que Antoine Emmanuel a consacré, il disait « Mon souvenir le plus marquant, ce sont ces longues heures d'oraison et d'adoration au bout de la nuit, à 4 heures du matin, à même le sable du sol. Il y avait aussi les heures d'oraison et d'adoration bien réparties en fonction d'un règlement que je m'étais fait. » Plus loin, à la question de frère Antoine Emmanuel, « Quelle découverte avez-vous faite en restant les yeux fixés sur le Saint-Sacrement exposé ?» Il répond « Sur la pierre en saillie qui sert de tabernacle, l'hostie consacrée est là, rayonnant comme un soleil de justice à la lueur de la lampe à huile. Il n'y a rien, ni personne, mais Dieu est présent. Personne ne dit rien et l'on n'entend rien, mais Dieu parle. » Voyez que c'est là, dans ce seul à seul avec Jésus Eucharistie, et aussi en l'écoute de sa parole, qu'il a reçu l'intuition qu'il fallait une oasis de prière contemplative, d'adoration, au cœur du vrai désert, le désert spirituel des grandes villes, où il y a tant de détresse, d'anonymat, de perte de repères, d'oubli du sens de la vie. Et puis, comme frère Charles, pour qui Jésus était le modèle unique, frère Pierre-Marie a aussi mis l'accent, dans son tracé spirituel, sur la suite et l'imitation du Christ, et du Christ priant, adorant, célébrant la liturgie. C'est le numéro 12 de notre livre de vie que je vous ai mis sur la feuille, que vous avez sous les yeux, que vous pouvez relire à tête reposée, mais je cite juste le tout début. Prie comme Jésus priait, prie toi aussi. Toute sa vie était orientée vers le Père. Incessante offrande, écoute, hymne intérieur d'adoration, d'amour, d'action de grâce et perpétuelle intercession pour les hommes. Vous avez aussi le numéro 162A, première partie du 162, vous l'avez sur votre feuille. Puisque Jérusalem est la ville où Jésus-Christ est monté pour adorer, et que toute ta vie est une marche derrière lui, tu portes ce nom de Jérusalem. Encore une fois, le modèle du Christ, adorateur, comme vraiment fondateur pour notre spiritualité. Et puis, à cause de la vocation de la ville sainte à rassembler tous les fils d'Abraham, adorateurs du Dieu unique, c'est le numéro 174 qui suit, et de la mission que nous avons reçue aussi de l'Église, à travers le cardinal Marty, qui était venu célébrer la première Eucharistie à Saint-Gervais, avec nos premiers frères, le premier dimanche de l'Avent 1975, et qui nous avait dit à cette occasion que nous avions pour mission d'être ces veilleurs et veilleurs debout sur les remparts de la cité. Eh bien, voilà que notre vocation a été en quelque sorte mise en place, à la fois par frère Pierre-Marie qui a pris comme modèle le Christ et par notre évêque fondateur, le cardinal Marty. Et ce nom de veilleur, bien sûr, il vient de la citation d'Isaïe 62, et vous la retrouvez dans le numéro 135 du livre de vie. Manquerait-il des veilleurs sur la ville ? Pour Sion, je ne me tairai pas. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des veilleurs, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. C'est ce beau nom de veilleur que votre fraternité, en tout cas pour la fraternité qui est proche de nos fraternités, a choisi. Et c'est un très beau mot. On veille sur la ville, on veille avec une mission pour la ville. Autre particularité de notre communauté, l'accent mis sur l'eschatologie, qui nous fait nous tourner vers la Jérusalem céleste, où les élus ont pour unique activité, pourrait-on dire, l'adoration de l'agneau vainqueur, comme le décrit le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Ce qui était repris dans notre livre de vie, au numéro 62. Tout le labeur monastique vise à anticiper le règne de Dieu et à goûter, dès ici-bas, quelque chose de la vie promise au-delà. Notre liturgie eucharistique met ainsi fortement l'accent sur l'anticipation du mystère des noces de l'agneau, pour que notre vie tout entière revêtent cette dimension nuptiale qui est la nôtre et qui sera la nôtre au ciel pour tous et totalement et pour toujours. Au numéro 57 du livre de vie, vous avez ceci, « Ta vie, baptismale, te convie à vivre le mystère du corps du Christ et des noces de l'agneau pour ne plus faire qu'un avec lui. » C'est peut-être aussi la raison pour laquelle la fête de Pâques a été retenue comme celle de nos fraternités. Car Pâques, c'est le triomphe du Christ ressuscité dans son corps glorieux. C'est le terme victorieux du mystère pascal. Et cette Pâques, bien sûr, nous la célébrons dans chaque Eucharistie. C'est cette Eucharistie quotidienne qui nous donne la présence réelle, corporelle du Seigneur. Voilà un petit peu la genèse de notre communauté et pourquoi, en quelque sorte, nous avons mis l'Eucharistie et l'adoration eucharistique au cœur de notre spiritualité. Voyons maintenant comment elle a pris chair, elle s'est incarnée concrètement dans la vie de nos fraternités. Avant même que le livre de vie, le tracé spirituel des fraternités, soit écrit en 1978, avant même que l'Église nous donne nos constitutions, le 31 mai 1996 pour leur version définitive, La célébration eucharistique a tout de suite eu une place centrale dans la vie de nos fraternités. Et l'adoration eucharistique est apparue spontanément, mystérieusement, comme une nécessité d'amour dans notre vie de prière. Nos plus anciennes sœurs se souviennent des après-midi d'adoration, tout d'abord assurées par trois d'entre elles à Saint-Gervais, à Paris. Et ces sœurs avaient un charisme, c'est vrai, particulier, elles pouvaient durer des heures et des heures devant le Saint-Sacrement. Saint-Gervais, de leur mémoire, a été transformé à partir du moment où on a adoré le Saint-Sacrement dans cette église. Les fidèles ont commencé à affluer alors que l'église était plutôt vide en 75 et les vocations ont commencé à naître, à arriver. Dès le début, nous avons choisi un ostensoir en forme de croix copte. Là, je laisserai plutôt Cécile, sœur Cécile, vous en parler un jour parce qu'elle est passionnée par le sujet. Vous connaissez certainement cette croix copte, même si vous ne l'avez pas chez vous, mais sur les vidéos qui présentent Saint-Gervais, voilà. Voilà, vous avez certainement repéré cette croix copte. Je laisserai Cécile vous en parler un jour. C'est un symbole de vie qui remonte à l'Égypte ancienne, en fait. Mais je laisserai vous en parler, puisqu'elle en fera ça beaucoup mieux que moi. Les nuits d'adoration du jeudi au vendredi ont été mises en place assez vite, en souvenir de la prière de Jésus à Gethsémani. Bien sûr, ces nuits d'adoration ont repris ce que frère Pierre-Marie vivait au désert. Il en témoigne, là encore dans Source Vide, il raconte qu'il avait vécu cela à l'école des petits frères de Jésus, qui étaient à Béni Abbès, donc avant de monter à la Sécrène. Le frère Carlo adorait à 2h du matin, le frère Hermette à 3h du matin, et frère Pierre-Marie prenait la suite à 4h du matin. Puis les petites sœurs de Jésus venaient ensuite, puis ils se rassemblaient tous pour chanter les laudes à 6h du matin. Donc cette habitude que notre fondateur a prise, eh bien, a été ensuite transmise à la communauté et inscrite au numéro 21 du livre de vie, qui est le seul à parler véritablement de l'adoration eucharistique. Vous l'avez sur votre écran. Chaque semaine, le jeudi, en souvenir de Gethsémani, où personne ne peut prier une heure avec Jésus, prie dans la nuit, au centre des misères et des joies de la ville où Dieu t'a placé comme veilleur guettant l'aurore, implorant toi aussi pour ton péché et rendant grâce à Dieu pour ses merveilles. Lève-toi au milieu de la nuit, lui rendant grâce pour ses justes jugements. C'est pour être ces veilleurs et veilleurs que l'Église nous a appelés à être debout sur les remparts de la cité. Voilà, toi donc, lève-toi dans la nuit, au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant le Seigneur, ton Dieu. Toutes nos fondations, qui ont lieu à partir de 1993, ont commencé par installer le Saint-Sacrement dans le lieu où elles allaient commencer leur mission et à y vivre tout de suite un temps d'adoration. Sœur Catherine, encore, le rappelait aux veilleurs venus en récollection à Vézelay. Elle disait, le 24 octobre 1993, dans la crypte de la basilique de Vézelay, l'adoration eucharistique a été mise en place tout de suite et ce fut comme l'acte fondateur de la communauté, dans la ligne de ce que faisait Sainte Thérèse d'Avila dans ses fondations, commencer par installer le Saint-Sacrement comme cœur eucharistique de la communauté. À Montréal, l'aventure a été encore plus belle. C'est le Saint-Sacrement exposé qui a accueilli nos frères et nos sœurs dans ce sanctuaire déjà dédié à l'adoration par les pères du Saint-Sacrement. Que l'Église ait pensé à nous, à nos petites fraternités toutes jeunes dans l'histoire de l'Église, pour reprendre ce lieu, ce sanctuaire diocésain d'adoration, je crois le premier sanctuaire de l'Amérique du Nord dédié à l'adoration, et pour reprendre cette mission, eh bien, confirme si besoin en était notre vocation d'adorateur. Touchés par ces grâces de l'adoration, les laïcs qui fréquentaient nos liturgies à Saint-Gervais, puis bien sûr dans les autres lieux de fondation, ont voulu eux aussi s'engager dans ce qu'ils ressentaient comme une mission pour la ville. La communion des veilleurs est née ainsi en 1991 lors d'une assemblée générale de Pentecôte à Magdala en Sologne, notre lieu de rassemblement communautaire. Et c'est grâce à eux, à ces veilleurs, que l'adoration a pu s'étendre, en tout cas à Paris au début, aux matinées, en semaine, au dimanche, au lundi, puis que des nuits d'adoration ont pu être proposées en dehors de celles assurées par les frères et sœurs la nuit du jeudi. Puis que des expériences d'adoration perpétuelle ont pu se vivre sur plusieurs semaines d'affilée, voire plusieurs mois d'affilée, notamment pendant l'année qui précédait le grand jubilé de l'an 2000. Et puis pendant l'année jubilaire elle-même de Pâques à Pentecôte. Tout cela, nous avons pu le vivre grâce aux laïcs adorateurs, aux veilleurs. Au jour d'aujourd'hui, les veilleurs sont présents dans presque toutes nos fondations, parce que dans les hauts lieux, c'est plus difficile. Vézelay, le Mont-Saint-Michel, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de laïcs vivant proche de la fraternité. C'est plus compliqué. Mais pratiquement dans toutes les autres, je ne vois pas d'exception, il y a une petite communauté ou une grande communauté de veilleurs. À Strasbourg, sœur Dominique Marie, qui était l'ancienne prieure, la prieure fondatrice avec frère Antoine Emmanuel, en 1995, a même lancé, et puis elle a ensuite exporté cette fraternité à Paris, les enfants adorateurs, avec leur maman, montrant bien que l'homme est fait pour adorer dès son plus jeune âge, et que c'est vraiment l'attitude la plus essentielle, l'adoration, de la petite créature que nous sommes face à notre Créateur et Rédempteur, même si cette petite créature ne comprend pas tout de son mystère, et pour cause. Un petit enfant ne comprend pas avec son intelligence, mais avec son cœur, oui, il peut comprendre. Au total, on peut dire que l'Eucharistie, et plus particulièrement l'adoration eucharistique, dans l'histoire de notre communauté, s'est révélée être, dès le début et de plus en plus au fil des années, comme ce centre de notre vie de prière et le lien de communion de notre vie fraternelle. Et chez vous, à Montréal, on m'a dit qu'il se passait quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai envie de le citer parce que ça a fait mon émerveillement quand je l'ai appris. On m'a dit « Le buisson ardent fait des petits ». Il commence à essaimer dans d'autres villes, villages autour de Montréal. Et voilà que les laïcs, sans l'aide de frères et de sœurs, eh bien, reproduisent cette veillée d'adoration du buisson ardent dans d'autres lieux. Ça, je me suis dit, c'est formidable. Les laïcs deviennent missionnaires par l'adoration. J'ai une immense action de grâce dans mon cœur quand j'ai appris ça. Alors, mon dernier point, c'est là que je vais élargir, que vous allez retourner la feuille que je vous ai passée. Être adorateur par toute sa vie. À Paris, pour les sœurs, je m'étais amusée à calculer que nous passions en moyenne 250 heures par an devant le Saint-Sacrement exposé. C'est à la fois révélateur de son importance, c'est quelque chose, 250 heures, et en même temps, c'est relativement peu, voire très peu, dans l'ensemble de notre vie. C'est 4% de notre temps éveillé. C'est rien. Ce qui veut dire que si nous sommes adorateurs par mission, eh bien, nous sommes appelés, et vous l'êtes aussi dans la fraternité des adorateurs, à développer un cœur d'adorateur, d'adoratrice, bien au-delà de l'adoration eucharistique effective. Le père Bernard Bastian, modérateur, ancien modérateur de la communauté du Puy de Jacob en Alsace, dit ceci. Adorer, c'est se rendre souvent dans son cœur. C'est s'incliner devant le cœur de l'autre. C'est demeurer dans l'attitude de prosternation intérieure, quels que soient les temps et les lieux. C'est veiller sur son cœur pour qu'aucune idole n'y usurpe la place de Dieu. Voilà une belle définition de l'adoration. De l'adoration en acte et en vérité. Une belle définition que vous pourriez reprendre dans vos fraternités d'adorateurs. Bien que explicitement l'Eucharistie n'apparaisse pas fréquemment dans le livre de vie, on l'a vu, il y a peut-être que le paragraphe 21 qui en parle vraiment, c'est en fait tout le livre qui est imprégné d'une spiritualité eucharistique. Et frère Pierre-Marie, lorsqu'on lui demandait quelle était finalement la spiritualité de Jérusalem, répondait « Elle est avant tout eucharistique, c'est-à-dire pascale, oblative, contemplative et adorante, au-delà de la source du sacrement lui-même, ou plutôt en prolongation de lui. » Ainsi, au paragraphe 20 du livre de vie, nous sommes invités à faire de tout Eucharistie et à faire de notre vie une offrande au Père par le Christ, une hymne d'action de grâce. Alors, comment cela s'inscrit-il en propre dans notre charisme? Il me semble, par trois dimensions de la vie chrétienne, la contemplation, le témoignage silencieux et le combat spirituel. Je vous ai mis sur la feuille les trois étapes, hein, avec des citations du livre de vie que vous pourrez reprendre. Je les lance juste un peu comme une piste, mais vous pourrez les reprendre en réunion de fraternité. La contemplation. Ah, je vais mettre mes lunettes parce que ce sont des notes manuscrites, excusez-moi. La mission ecclésiale de Jérusalem, disait frère Pierre-Marie, c'est de bâtir des priants au cœur des villes, sans qu'ils aient à se retirer du monde pour prier, et d'inviter les fidèles à découvrir la dimension la plus belle, la plus élevée, la plus féconde de la prière, qu'est la contemplation. C'est dit au paragraphe 13 du livre de vie. Il n'est pas de tâche plus belle qu'il soit donné à l'homme d'accomplir que la contemplation. Alors appliquée au mystère pascal, la contemplation prend notamment, c'est là que nous rejoignons notre sujet, la forme de l'adoration eucharistique, qui fait appel au sens physique comme au sens spirituel, par cet échange de regards sur lequel elle repose. Je le regarde caché sous les espèces du pain, et je me laisse regarder par lui avec tendresse, avec miséricorde. Pensons ici à la belle figure de Sainte Marie-Madeleine, qui voulait toucher le Christ, l'approcher, le regarder. Et celle de Saint Jean, penchée sur la poitrine de Jésus. La contemplation eucharistique, c'est aussi un accueil d'une présence. Notre premier devoir de créature, notre premier mouvement envers Dieu, n'est pas une action, mais une passivité, une ouverture, un laisser-faire. Accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. Que ton âme soit remplie de cette présence aimante du Seigneur. C'est le numéro 1 de notre livre de vie. Ou encore au chapitre accueil, numéro 40, « Sois accueillant à Dieu. Tu ne sauras donner que si tu es rempli de lui. Accueille en toi la présence de Dieu et elle rayonnera. » Mais cette passivité de l'accueil n'est pas impassibilité totale, ou refus d'agir de notre part. Le livre de vie et toute la spiritualité monastique nous invitent aussi à quêter Dieu. Quêter, c'est une activité, ça demande un effort. Quête son visage dans l'invisible, c'est le numéro 63. Notre Dieu est un Dieu caché, comme il le disait à Moïse, et cela est particulièrement vrai dans l'adoration eucharistique. Dieu se cache dans ce morceau d'hostie devant moi. Et moi, avec les yeux de la foi, je le vois au-delà des apparences. Dieu est toujours caché, difficile à trouver, nous dit le numéro 15 du livre de vie. Continue à le servir, ainsi caché dans le secret. Moins tu comprendras, plus tu t'approcheras de lui. Ça, c'est une citation de Saint Jean de la Croix. Qu'était ce visage dans l'adoration, c'est nous pénétrer du mystère de sa personne. Contemple le cœur transpercé du Christ, nous invite le numéro 79 du livre de vie. Il t'enseignera de quel immense amour Dieu t'a aimé. Et l'on sait, dans toute la tradition de l'histoire de l'Église, le lien étroit qui s'est développé entre adoration eucharistique et vénération du Sacré-Cœur de Jésus. Car c'est le cœur eucharistique du Christ que nous adorons dans le Saint-Sacrement. Ce cœur pauvre, humble, chaste, obéissant et infiniment miséricordieux. Cette contemplation eucharistique est en vue d'une demeurance, d'une incorporation. Plus nous accueillons Dieu en nous, plus Dieu Trinité vient faire en nous sa demeure et nous devenons peu à peu tabernacle vivant de sa présence. Vous l'avez au numéro 3 du livre de vie. Cela se fait peu à peu, comme par osmose. À force de s'aimer, on finit par se ressembler. Vous le savez bien pour ceux qui sont mariés. Eh bien, mieux même, plus on s'aime, eh bien plus on vit l'un dans l'autre et l'un pour l'autre. Et c'est ce qui se produit dans l'adoration. Voilà pour ce premier point sur la contemplation. Deuxième point, le témoignage silencieux. C'est une autre dimension de notre vie chrétienne par laquelle nous laissons l'Eucharistie vivre en nous et à travers nous. Là, c'est la figure de Saint Jean le Baptiste qui va nous parler. Je sais qu'il est le patron des francophones du Canada. C'est aussi, vous le savez sans doute, le saint patron des sœurs. Pourquoi ? Pour sa joie, pour son humilité, pour sa mission de désigner l'anneau de Dieu par sa parole et par toute sa vie. Il est le témoin, au point que certains artistes l'ont peint, l'ont sculpté, avec le doigt, un doigt immense, pointé vers le Christ. Ce doigt personnalisant finalement tout son mystère de précurseur, d'ami de l'époux. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans l'adoration eucharistique, nous sommes ce doigt silencieux, tourné vers le tout autre, invitant ceux qui entrent dans l'Église, quelquefois par hasard, à regarder à leur tour celui que nous adorons. Marche à la suite de Saint Jean-Baptiste, sois au cœur de ce monde prophète de la parousie, nous dit le livre de vie au numéro 63. Scrute la trace de Dieu, oriente vers Dieu le maintenant et annonce l'au-delà à la lumière de ta foi. Tout cela, nous l'accomplissons silencieusement par notre présence fervente devant le Saint-Sacrement. À Saint-Gervais, figurez-vous que des personnes se sont converties alors que nous étions en train d'adorer le Saint-Sacrement dans des conditions assez invraisemblables. L'église était en plein ravalement. Il y avait une sorte de caisson de bois ou de contreplaqué plutôt autour de l'autel. Et là, dans cette espèce de caisson, des frères, des sœurs, des laïcs se relayaient pour adorer. Et en plus, il y avait un bruit de marteau-piqueur. C'était absolument invraisemblable. Eh bien, des personnes sont entrées dans l'église par hasard et se sont dit « Mais si ces gens sont là en train de se prosterner devant cette hostie, dans des conditions telles, il doit y avoir quelqu'un dans cette hostie. » Donc, nous étions là, comme le doigt de Saint Jean-Baptiste a désigné l'anneau de Dieu. Ce seul fait a suffi pour que des personnes se convertissent. Au paragraphe 131 du livre de vie, nous voyons comment se déploie cette mission de témoin, à la fois vivant et humble du Dieu caché, en accueillant par là même tout homme de bonne volonté à entrer, s'il le veut, avec toi dans la contemplation de Dieu. Cette mission est exigeante car elle nécessite une visibilité. Comme pour Jean-Baptiste, il faut que l'on nous voit d'abord pour ensuite voir le Christ. Mais c'est vraiment un des traits majeurs de la vocation du charisme de Jérusalem, celle des consacrés comme celle des laïcs. Par cette vocation ecclésiale, dit le paragraphe 150, offre au monde un signe visible de l'insondable mystère du Christ. Le Seigneur veut que tu sois dans son Église le témoin discret mais authentique de cet absolu qui vaut plus que tout. Une autre image qui rejoint cette idée de témoignage silencieux par l'adoration eucharistique, c'est celle de l'oasis dans la ville. Par le labeur de notre prière, dit le numéro 132, nous créons une oasis. Si par grâce l'eau vive jaillit, on pense à l'eau qui jaillit du côté transpercé du Christ, sache la partager. Notre présence devant le Saint-Sacrement est comme une mission de service public. Vous savez que ça a été ma vocation avant de devenir moniale. J'y tiens, je crois que c'est très important. Nous restons là comme des gardiens du puits pour que l'accès à l'oasis reste ouvert au nom du saint devoir de l'hospitalité dans le désert, afin que les assoiffés des grandes villes où nous sommes s'approchent à leur tour et reçoivent l'eau de la vie gratuitement. Au jugement final, il ne sera pas demandé si nous avons bien bu, mais si nous avons bien partagé. Et comme nous avons reçu gratuitement la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, il nous faut la donner, la partager gratuitement. Une autre image aquatique qui précise notre mission de témoin par l'adoration et par la célébration eucharistique, c'est celle de la source. Notre prière liturgique, dont le sommet est l'Eucharistie, est évangélisatrice, nous dit le livre de vie. Elle évangélise au mieux un monde avide de connaître celui qui est à la source de notre recherche et de notre amour. C'est le numéro 158. Elle crée entre nous une telle communion autour du corps du Christ que cette communion renvoie à celui qui est la source de cet amour et de cette prière. Cela est particulièrement visible au moment de la paix du Christ, du geste de paix, qui signifie concrètement notre unité en Christ. Que ta vie indique sans peur et sans bruit le chemin de la source, et Dieu lui-même accueillera et désaltérera les fatigués, dit aussi le livre de vie au numéro 49. En participant au repas eucharistique, nous transmettons au monde l'invitation éternel de la sagesse qui propose aux hommes de venir à son festin. Venez manger de mon pain, venez buvez du vin que j'ai préparé pour vous. Alors oui, un lien vivant de communion s'établit entre nous à travers la célébration quotidienne de l'Eucharistie et son prolongement dans l'adoration. Et cela est vraiment l'essentiel. Guidés par la même parole, nourris du même corps, portant le même nom, vivant du même idéal spirituel, nous devenons alors les témoins paisibles et joyeux du royaume qui vient. C'est le numéro 176 du livre de vie. Troisième dimension de notre vie chrétienne, toute nourrie de l'Eucharistie, le combat spirituel, à la fois personnel et de solidarité. Là, c'est un thème vraiment du carême. Car adorer, participer à l'Eucharistie, c'est entrer dans le mystère pascal, non pas comme des spectateurs, comme des consommateurs passifs, mais comme co-acteurs avec le Christ de son grand combat victorieux contre les forces du mal. C'était tout le thème du premier dimanche du carême. Vous vous souvenez, le combat du Christ au désert. Toute vie chrétienne est un combat, nous dit le livre de vie, au numéro 129. Au cœur de la ville, tu mèneras donc un double combat, pour Dieu et contre le mal. Tu y recevras une double grâce, la rencontre de Dieu et la purification de ton péché. Notre spiritualité urbaine à Jérusalem appelle clairement des combattants, des lutteurs. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le mal, nous le savons, est d'abord à l'intérieur de notre propre cœur. Notre combat pour le dénoncer, pour chercher vraiment à vivre l'évangile des béatitudes, va consister à se ressourcer constamment dans le mystère pascal, dans la force du Christ eucharistique. Ainsi, pour vivre la chasteté n'est pas réservée aux consacrés, aux prêtres, tout chrétien, selon son état de vie, est appelé à vivre la chasteté. Il est dit, au numéro 91 de notre livre de vie, « Pour vivre la chasteté, la double grâce de la pénitence et de l'Eucharistie sera ta force quotidienne. Pour vivre l'unité au sein d'une famille, d'une communauté, d'un groupe de travail, eh bien, nous savons qu'il s'agit de dénoncer en nous d'abord tout germe de division. Eh bien, pour cela, il faut adorer et communier. En communion, nous ne recevons pas seulement le corps sacramentel du Christ, nous recevons nos frères et sœurs, membres du corps mystique du Christ. Nous pouvons nommer, à ce moment-là, lorsque nous avons l'Eucharistie dans la main, sur les lèvres, nous pouvons nommer tel frère, telle sœur, telle personne avec qui nous avons un peu de mal à communier, que nous avons du mal à aimer. Et alors, l'Eucharistie va nous unir, va nous aider à dépasser l'obstacle. C'est souvent aussi l'Eucharistie qui nous aide à transformer notre labeur quotidien, le travail, les services, telle souffrance à supporter, en une Pâque quotidienne, dit le livre de vie, au numéro 23. Passant grâce à elle de la peine à l'offrande, de la contrainte à l'acceptation, de l'homme soumis au coopérateur filial. Je pense notamment au beau geste de l'offertoire quand deux personnes montent depuis le rang des fidèles jusqu'à l'autel en portant la patène et le calice, le pain, le vin, plutôt la patène. Mais c'est un geste extrêmement beau parce que dans cette patène, il y a tout le poids du labeur de la journée, tout le poids de nos souffrances, tout le poids de nos peines. Et par le mystère pascal, par l'Eucharistie, cette peine est transformée en joie. C'est par l'Eucharistie que nous sommes vraiment associés au sacrifice du Christ, dit le numéro 147, jusqu'à atteindre le sommet de l'amour qui s'immole, comme Jésus, devenant en lui hostie vivante offerte au Père pour le salut du monde. Plus simplement, sans aller jusqu'à l'immolation, l'Eucharistie nous permet de renouveler sans cesse notre énergie. Vous dites ici, je crois, au Québec, refaire son budget d'énergie. Eh bien, c'est tout simple. Il ne s'agit pas seulement de faire des exercices physiques, mais de venir chaque jour à cette source qu'est l'Eucharistie. En accueillant à travers elle la paix, la lumière, la joie qui nous viennent de Dieu. C'est le numéro 15 qui le précise. Cela nous permet d'arriver à faire de tout l'Eucharistie, c'est-à-dire une action de grâce au Père. Comme le disait frère Charles de Jésus dans sa prière d'abandon, « Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. »« Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. » Pour arriver à dire cela, il faut passer, comme lui, de longues heures d'adoration devant le Saint-Sacrement. L'Eucharistie nous pousse aussi à un combat de solidarité pour la vie des hommes, pour le monde. Par notre permanence devant le Saint-Sacrement, un peu comme ces lampes à huile qui brûlaient autrefois dans le temple de Jérusalem, devant le Saint des Saints, nous sommes appelés à être ces veilleurs et veilleurs sur les remparts de la cité, à lever au cœur de la ville, comme Moïse lorsque Josué luttait dans la plaine contre Amalek. Nous sommes appelés à lever les deux bras de la louange et de l'intercession, à appeler sur la ville la bénédiction divine. C'est le numéro 130 du livre de vie. Et notre prière pour le monde le protège efficacement. Le pape Jean-Paul II l'avait affirmé en 1980. Tous les maux du monde, disait-il, peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de l'adoration eucharistique perpétuelle. Et vous savez que c'est lui qui avait demandé que l'adoration eucharistique perpétuelle soit mise en place à Saint-Pierre de Rome après qu'il ait été victime d'un attentat, 13 mai 1981. Il a demandé après cela que l'adoration soit installée à Saint-Pierre. Il avait compris que l'adoration pouvait le protéger, lui, et plus largement l'Église. Plus encore, cette fois, dans l'optique du combat eschatologique, l'adoration eucharistique agit comme un levain qui fait lever toute la pâte. Déjà, au plan personnel, l'adoration nous prépare à notre propre fin, qui sera une Pâque, un passage vers le Seigneur de lumière. Sachant ce bonheur qui nous attend, nous cherchons à hâter cette Pâque par toutes ces heures de renoncement à nous-mêmes pour le Seigneur. C'est pour être vraiment vivant que nous cherchons à mourir, dit le numéro 70 du livre de vie. Nous allons comme au-devant de la mort, comme le Christ l'a fait, par obéissance d'amour au Père de tout amour. La contemplation du Christ dans sa Pâque, dans sa kénose d'amour pour nous, nous prépare à notre propre kénose, au don suprême, par lequel nous nous dépouillerons de tout, la Pâque de notre mort dernière. C'est le numéro 103 du livre de vie. Et au plan du corps du Christ tout entier, l'adoration eucharistique hâte la Pâque de la création tout entière, qui est encore en attente de sa rédemption définitive, de la résurrection finale. Pour le pape Jean-Paul II, l'adoration eucharistique, disait-il, est une annonce de la seconde venue du Christ. C'est le signe de l'avant définitif. Et elle donne à ceux qui la pratiquent un avant-goût de la fin des temps et la grâce de participer à l'édification de la civilisation de l'amour, un terme qu'il affectionnait. Parce qu'alors, seule demeurera la contemplation de Dieu et de l'agneau, selon la belle vision de l'Apocalypse. Voilà, pour ces trois manières d'être adorateur à travers toute notre vie. La contemplation, le témoignage silencieux et le combat. En conclusion, parce que notre pape actuel aime ce thème de la joie, je voudrais souligner le lien entre l'Eucharistie et la joie. Puis le carême est un temps de joie. On parle de la radieuse tristesse du carême. L'Eucharistie nous transmet de manière particulière la joie de Dieu. Comment ? D'abord parce qu'elle nous donne la présence réelle du Christ. Parmi les 7 causes de notre joie chrétienne, les 8 causes même, vous pourrez vous amuser à relire le livre de vie, paragraphe joie, et à retrouver les 8 causes de la joie chrétienne. Eh bien, au centre de ces 8 causes de la joie chrétienne, il y a la présence réelle du Christ, la présence du Christ à tes côtés. La présence du Christ qui demeure avec nous jusqu'à la fin du monde et qui nous donne son amour pour que sa joie soit en nous et que notre joie soit parfaite. C'est le numéro 179. Et qu'ainsi nous ayons en nous-mêmes la plénitude de sa joie. Et puis, l'Eucharistie nous ouvre à la joie de la communion des saints. Par elle, nous entrons en intimité profonde avec tous nos frères en humanité, et spécialement nos chers défunts. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais vous ne pouvez pas être plus proche de ceux qui vous ont quittés que dans l'adoration et la communion eucharistique. Et c'est une joie immense. Vous pouvez les retrouver là avec un très grand bonheur. Enfin, l'Eucharistie nous donne d'anticiper la béatitude éternelle du ciel. « Je vis un ciel anticipé, disait la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Et je crois que ce ciel anticipé, vous pouvez, comme moi, dire « Oui, j'en ai fait l'expérience, au moins un jour dans votre vie, à travers l'adoration eucharistique, à travers ce goût de la présence du Seigneur, ce goût du ciel qui est déjà là, au milieu de nous. » Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je pourrais peut-être juste, en conclusion, vous partager un témoignage. Parce que c'est une découverte que j'ai faite tout récemment. Et je me suis dit, c'est trop beau, il faut que je partage cette découverte à d'autres. J'ai perdu ma mère il y a quelques mois, c'était en décembre de l'année dernière. Et il se trouve que dans ma famille, comme dans toute famille, il y avait des tensions. C'est pas une idée parfaite. Et au moment d'un décès, c'est encore plus fort. Il y a des tensions qui se révèlent. C'est dommage parce qu'on voudrait être tellement unis. Et puis c'est justement à ce moment-là que les tensions apparaissent. Nous aurions voulu célébrer l'adieu à notre maman de manière unie. Et puis voilà qu'on commençait à se chamailler sur des détails. Une fois, mes frères et sœurs se sont mis d'accord sur un détail, mais qui pour moi avait de l'importance, le livret d'adieu pour la messe d'au revoir à notre maman. Et ils se sont mis d'accord sans moi sur la photo qu'ils voulaient choisir sur ce livret. Et je trouvais que cette photo n'était pas la plus belle, j'en aurais vu une autre. Et j'étais assez déçue de l'attitude qu'ils avaient eue déjà pour ce choix, et en plus de l'avoir fait sans moi. Et puis, j'ai été priée, j'étais devant le Saint-Sacrement, et quelque chose m'a dit en moi, quelqu'un m'a dit en moi, mais lâche prise. Ta maman, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans l'adoration éternelle. Elle va rentrer dans sa vocation d'être adoratrice en esprit et en vérité. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Bientôt, tu vas la rejoindre. Bientôt, tes frères et sœurs vont la rejoindre. Alors, est-ce que c'est pas le temps de lâcher prise de tout conflit entre vous? Plus vous êtes tendu entre vous, plus vous retardez ce moment d'entrée dans votre vocation éternelle. Alors, lâche prise. C'est ce que j'ai fait. Et une grande paix m'a envahie. Une grande paix était communiquée à mes frères et sœurs. Tous les détails matériels se sont réglés comme par miracle. Et nous avons pu célébrer cet adieu de notre maman dans une immense paix, dans une grande unité. Et je crois que c'est grâce à cette découverte que si nous voulons entrer plus vite dans l'adoration, qui est notre vocation éternelle, eh bien, nous devons nous réconcilier très vite avec nos frères, avec nos sœurs. À cause de ce primat de l'adoration, à cause de notre vocation éternelle à être des adorateurs, alors prions pour que tout homme, toute femme découvre cela et que cesse les conflits, notamment dans les familles, dans les communautés. Voilà, un petit témoignage.